avez été voir tous les deux le film Green Hornet.
Et cette musique y est toujours.
Et cette musique y est toujours, bah oui, c'est évidemment un morceau indispensable. C'est la musique de la série télé, voilà. Donc, série télé qui date de... Ouh là là.
J'ai fait mes recherches.
Ah, ouais, ah oui, attention, attends, parce que...
C'est une série de 1966.
Ouais, avec 26 épisodes de 30 minutes.
Mmh. Voilà, et avec ce fameux Bruce Lee dedans, quand même.
Bah ouais, on en entendait un peu parler de celui-là depuis. Mmh. Donc, voilà, mais évidemment, Green Hornet, c'est n'est pas d'abord une série télé de 66. Tu as fait tes recherches aussi.
Ah bah moi j'ai cru que c'était par comment qu'il s'appelle mince, comment il s'appelle ce réalisateur je l'ai noté hein.
Michel Gondry, non, c'est pas lui.
Non. Bah écoute, a priori, c'est George Trendle.
Mm-hmm.
Voilà.
Mais ça a été créé en quelle année, Green Hornet?
Je crois que c'était juste avant, 65.
Ouais, un peu avant, ouais.
Il n'y avait aucune mention d'une œuvre avant le film.
Tu tends les doigts et Cindy va frapper. Hein. Green Hornet, 1936.
Mm-hmm.
C'est un show radio à la base. C'est même pas une bande dessinée, c'est même pas une série télé. C'est un show radio.
Un show radio.
Voilà. Et donc, eh bien oui, Green Hornet a commencé à la radio. Donc en 1936, et dès 1940, il y a même une version en bande dessinée. Mais bon, il y a eu beaucoup de tentatives de bande dessinée qui ont souvent fait long feu et n'ont pas vraiment très bien marché. Ça, il faut bien le reconnaître. Green Hornet a eu beaucoup d'adaptations différentes et variées, même en bande dessinée. On a souvent eu une limite à 5-6 numéros. Parce que ben, ça fonctionnait pas forcément bien. Il y a eu plusieurs shows radio, il y a eu plusieurs émissions télé aussi, puisqu'il y en a une beaucoup plus récente qui est restée inédite. Et puis évidemment, il y a eu des films.
Oui, il y a plusieurs films.
Le premier film, il date de 1940. Donc,
mais sinon, après la série, ils ont essayé aussi d'enchaîner sur des trois films qui n'ont pas du tout marché.
Il y a eu et des tentatives plus récentes, puisque c'est Kevin Smith qui au départ était rattaché au projet avant qu'il
réalise. Apparemment, ça fait 15 ans que le film doit sortir.
Ça fait partie de ces personnages qui sont mythiques, qui sont iconiques de la pop culture, mais qui globalement n'arrivent jamais à déclencher les passions. Donc là, c'est vrai qu'on parle souvent de la série de 66 qui sortait en même temps qu'un certain Batman, qui lui faisait un peu d'ombre, même s'ils avaient Bruce Lee. Voilà, donc il y avait effectivement cette série qui est la plus connue, celle dont on a le plus entendu parler, et qui était passée à l'époque sur Canal+, dans les années 80, et qui a dû être diffusée ensuite, je crois que c'était sur M6, mais qui est une série qui globalement est inédite en France. Alors là, vous avez été voir le film, et donc vous allez nous parler de ce film. Avant, j'ai quand même vous laisser nous expliquer qui est le Green Hornet.
Alors, le Green Hornet.
Bon. J'ai eu peur que t'aies rien à dire et que vous soyez bécoté pendant tout le film et que vous n'ayez pas vu le truc.
Je te voyais toucher un bouton, je me disais, tiens, tu vas remettre la musique.
Non,
tu
même
fais
pas.
Parfois, et non, même pas.
Tu vois. Je te laisse, tu vois. Ah, vas-y.
Alors, le Green Hornet, en fait, c'est Britt Reid qui est le fils d'un grand journaliste qui était rédacteur en chef du Daily Sentinel. Et ce père vient de mourir. Et alors qu'il doit faire face au deuil et puis réorganiser la grande maison familiale, il rencontre Cato, qui était un peu l'homme à tout faire de son père, puisqu'il faisait le café, il entretenait les voitures, et entre autres, c'est un bricoleur de génie. Alors en le faisant revenir, parce qu'en fait il avait viré tout le monde suite à la mort de son père dans la maison, et il trouve que le café est mauvais, donc il réembauche Cato, qui fait du meilleur café, et se rend compte que c'est un génie qui bricole plein de machines, plein de gadgets, qui en plus sait se battre. Et alors qu'il cherche un peu un sens à sa vie, il va se dire, tiens, il va avoir une idée brillante, et pourquoi pas jouer les justiciers masqués. Alors que lui, ce serait le cerveau, et donc ensuite ce serait Cato qui serait un peu son bras droit. Et par contre, pour pas tomber dans les clichés du super-héros, et bien, les super-héros en général, une faiblesse, c'est d'être gentil avec les gens. Et bien il dit, là non, on va faire les méchants, et comme ça on n'aura pas de faiblesse et on pourra avoir tous les criminels de la ville. En gros, voilà le topic. Et après, donc le film va déboucher sur plein de choses qui vont le rendre plus original.
Alors voilà, donc deux personnages au départ. À noter quand même que donc ce personnage de Kato qui dans la version d'origine quand il a été créé dans les années 30 était prévu pour être japonais.
Et il a un nom japonais d'ailleurs.
Il a un nom japonais, sauf que il y avait quand même un gros racisme anti-japonais dans les années 40 aux États-Unis et c'est ce qui fait que au bout d'un moment on nous a annoncé qu'il n'était pas japonais. Alors je ne sais plus de quel pays il était, mais il était cambodgien ou quelque chose comme ça, justement pour éviter que tout le monde le considère comme japonais et donc comme réellement méchant.
Et là il est chinois.
Là il est chinois, donc ça change pas grand chose de toute façon au final, puisque la nationalité de Kato n'a jamais été vraiment exploitée dans les œuvres.
Puisqu'en gros, le Brit s'en fout un peu d'ailleurs de l'histoire. C'est pas sous second plan quoi.
Il est là pour faire du bon café.
Voilà. Et puis bricoler des trucs. Et faire des belles voitures.
Voilà. Et donc, ce personnage donc, qui a un côté un peu Robin par moment, un peu Alfred à d'autres du coup. Puisque effectivement, c'est toujours le show sur lequel on le compare. Les périodes de création de Green Hornet et de Batman sont relativement proches, qu'ils ont à peu près les mêmes parcours. Hein. Ils ont des séries télé en même temps, ils ont été créés dans les mêmes années. Mmh. Ils sont tous les deux passés par la radio. Voilà, donc c'est vrai que la comparaison se fait régulièrement. Et donc, à part ce côté plus, je m'assume, méchant, qu'est-ce qui, pour vous, fait l'originalité de ce personnage ?
Ben ça va être parce qu'à partir du moment où ils vont se déclarer donc couple, on peut dire, de Green Hornet, et ben ils vont se mettre à bastonner les dealers, les petites frappes et tout. Ils vont pas les choper, ils vont vraiment leur faire la peau. Enfin, c'est surtout Kato d'ailleurs qui va leur faire la peau. Ils vont détruire les labos, les faire exploser avec leurs belles voitures, leurs armes et tout. Ils vont pas hésiter à vendre des informations, enfin ils vont du coup les, ça va être un peu le foutoir dans le au niveau du milieu de la drogue là-bas, et ils vont du coup provoquer le baron local qui s'appelle Chudnovsky et le politicien véreux, parce qu'il y a aussi un politicien véreux qui semble gentil puisqu'il dit qu'il a fait baisser la criminalité, mais en fait c'est juste un arrangement avec la presse, et qui en plus ce Scanlon, ce politicien, était l'ami d'enfance de Britt. Mais également, comme ils ont pas une morale forcément très forte, ils vont également s'attirer les foudres de la police, qui n'aime pas trop qu'ils dégradent les biens publics et fassent peur aux gens.
Voilà, en même temps, même quand les héros se la jouent gentils, ils font peur à la police qui les aime pas trop. Donc ça, c'est pas une originalité dessus. Voilà, donc ça, c'était effectivement les personnages.
Et en plus, après, on peut parler aussi de leur vie principale. Ils ont, dans la vie normale, il va reprendre les rênes du journal Brit pour tenter de montrer au monde qui est le Green Hornet, pour le faire mousser, pour le faire connaître plus vite. Et va céder pour cela des connaissances en criminologie d'une intérimaire experte, Lenore Case, qui va lui souffler des conseils, enfin des idées de ce que feraient les grands criminels à ce moment-là. Et il va tenter donc de les reproduire en tant que Green Hornet. Et en plus, tous les deux avec Kato vont essayer de charmer la journaliste, bien maladroitement, puisqu'ils s'y connaissent aussi peu l'un que l'autre. Et voilà, ça va donner plein de scènes un peu comiques autour de tout ça, entre les bastons qui marchent pas bien et puis leur tentative d'avoir une vie réglo à côté.
D'accord, donc le film en lui-même, donc, qui a été annoncé comme le Green Hornet 3D, donc, alors, qu'est-ce que vous avez
pensé ? J'ai pas fini tout à fait de parler de ce qui fait qu'il est drôle. Attends, j'ai préparé quoi ?
Et t'as vraiment préparé ? Alors vas-y, continue. Je te prends au montage quand je t'interromps pour rien.
Bah, on a trouvé que le film sortait du lot des super-héros parce qu'il a justement ce petit ton décalé qui fait qu'ils s'y prennent comme des bleus. Et que comme il a toujours été un enfant gâté, Brit, il croit qu'il est génial, il croit que c'est le cerveau, le meilleur. Il a un complexe de supériorité. Mais qui est en même temps rendu drôle parce qu'il est tout, vraiment très maladroit, et puis ses idées sont vraiment pas décalées par rapport à la réalité. Il va considérer en plus son acolyte comme un sous-fifre, un simple exécutant, et ça va finir par l'énerver ce dernier, puisque c'est quand même lui qui a les idées technologiques, qu'il est le seul à savoir se battre, et il va tenter lui aussi, alors qu'il semble pourtant pouvoir mener la balance, il va tenter de se rebeller, mais très maladroitement, puisqu'il a pas l'air du tout d'avoir confiance en lui. Ce qui fait qu'il va pas réussir à jouer en solo. En plus, le méchant, lui, est très drôle aussi, parce qu'en fait, ils arrivent à le rendre comme manquant de charisme dans le film. Donc, il s'habille mal, il a des slogans idiots, les autres truands, du coup, ils le considèrent pas vraiment sérieusement. Mais bon, ce qui est drôle, c'est que même s'il a l'air un petit peu d'un ego, dès qu'il s'énerve, il bute tout le monde, et les autres, il faut qu'ils respectent quand même, ils vont l'apprendre à respecter malgré eux. Et puis en plus, c'est ce qui fait que c'est un bon film. Il y a une mise en scène un peu décalée, il y a beaucoup de rythme, beaucoup de dynamisme et d'humour là-dedans. Voilà, en gros.
L'histoire. Cindy, toi, je ne t'entends pas, tu l'as laissé préparer, mais tu dois avoir un
avis. Ah oui, mais je laisse... Puisqu'il a oublié les mangas, tu vois, je me dis, allez... C'est lui qui bosse, quoi, tu vois.
D'accord, donc...
Moi, je me prélasse, j'écoute.
Ouais. En général, quand t'as dit ça, ça veut dire qu'à la fin, elle va tout te foutre sur le dos en te reprochant tout ce qui va pas. Alors, on va la laisser mitonner sa vengeance. Alors, cette fois-ci, le film en lui-même.
J'ai commencé en disant que oui, effectivement, il était bien réalisé. La 3D, là, cette fois-ci, elle fonctionne bien. Même si apparemment, j'ai pas entendu parler comme quoi il avait été pensé en 3D à la base. Il n'empêche que...
Ouais, là, ça rend vraiment bien. On voit le sens de la 3D. Hein. Ouais. Contrairement à certains films où ils ont pu la mettre, comme Saw, par exemple. Et là, tu dis, ça sert à rien, quoi.
Donc là, il y a quand même une conception qui, à la base... le prévoit visiblement.
Voilà, les explosions, on se prend vraiment des fois dans les explosions des détritus qui arrivent dans la face. Il y a aussi des jeux sur la profondeur, des fois quand on voit la ville qui est un peu limite, vraiment un aspect de grandeur de la ville.
Non, là ça rend bien.
Après, les effets de profondeur, c'est quelque chose qu'au cinéma ils osent pas utiliser en 2D et qui pourrait aussi fonctionner en 2D. Hein.
Oui.
C'est vrai que c'est souvent quelque chose sur lequel ils avaient des réticences. Et là, enfin. Même moi, quand j'ai été voir Avatar, qu'il l'ait vu en 2D, parce que de toute façon, je ne vois pas la 3D. Même quand on voit ce type de film avec une profondeur...
Avatar, on ne voit pas tant que ça, la 3D, finalement.
Avec une profondeur qui est ajoutée sur le 2D, même le fait de jouer dessus et d'oser le faire sur du 2D va donner déjà un aspect supplémentaire.
Mais là, ils vont plus jouer, finalement, dans ce film-là, sur, non pas sur la profondeur, mais vraiment sur les projections, en fait, dans la salle, sur... C'est ça qui va marcher. Les scènes d'action aussi qui vont être bien rendues avec ça. Enfin, c'est les combats qui sont bien chorégraphiés parce que c'est quand même un champion de kung-fu au cinéma, l'acteur de Kato.
Alors, ce qui est aussi amusant quand on prend ce type de film, c'est que quand même à la base, on a un personnage qui est un chouïa loser sur les bords, avec qui a été popularisé par une série télé années 60. Avec toute la maestria qu'on pouvait mettre dans les séries télé à l'époque et dans les chorégraphies de combat, on se dit que juste, c'est un peu aux antipodes de ce qu'est le Green Hornet pour la plupart des gens. C'est un truc un peu kitschouille, un peu raté quand même. Non ?
Puis quand on a... Oui, enfin... Moi, honnêtement, j'ai vraiment très très peu entendu parler du frelon vert à l'époque.
La série est tellement peu passée en France que c'est évident que... On n'en a pas eu énormément de vision, mais c'est quand même une série qui est ressortie aussi pas mal sur le câble. Je ne sais plus, j'avais tout à l'heure les époques où ça a été diffusé, mais c'est vrai qu'il y a 26 épisodes de la première série, la seconde série est carrément inédite en France, donc c'est assez étonnant quand même. De prendre le parti pris comme ça, d'arriver sur du film à grand spectacle. La précédente écriture, elle était due à Kevin Smith. Kevin Smith, c'était quand même c'est un réalisateur qui aime la bande dessinée, mais qui fait généralement des films à relativement petit budget. Et donc, sa version du Green Hornet aurait forcément été plus kitsch, aurait vraiment forcément joué sur... un côté très référentiel et humoristique, oui. Donc là, c'est vrai que le fait de nous l'annoncer comme un film à grand spectacle, ça a pu en surprendre plus d'un.
Et je trouve que c'est dommage, tu avais trouvé que la bande-annonce était pas assez bonne justement pour ce film.
Ouais, la bande-annonce pour moi, elle me donnait pas spécialement d'aller voir... d'aller le voir, ouais, le film, et je sais pas, ça me faisait penser un peu à...
Iron Man.
Oui, au bon héros qui va sauver tout le monde. Enfin voilà, c'était vraiment le truc kitsch, qu'on voit dans tous les films, qui sort pas du lot. Et donc, heureusement, j'ai été le voir grâce à toi. Tu m'as convaincu. Et franchement, j'en ressors ravi. Hein.
On est détendu avec ce film. Quoi. C'est tellement décalé que voilà.
Ouais, dommage que la bande-annonce le mette pas encore plus en avant.
D'accord. Donc un film quand même que vous avez apprécié tous les deux. La réalisation, vous en avez parlé.
Je peux faire un petit résumé
du
réalisateur, par exemple, pour situer qui c'est. C'est donc Michel Gondry, qui est un Français, qui a commencé dans les années 80 comme réalisateur de clips musicaux. Il était batteur dans un groupe et puis après il a réussi à se faire un nom et jusqu'à faire des clips pour Björk, les Rolling Stones, les Chemical Brothers, I.A.M., Radiohead, Kylie Minogue, les White Stripes. Donc il s'est vraiment fait un nom en fait en tant que réalisateur de clips. Et après il a participé avec les réalisateurs de Eternal Sunshine et La Science des Rêves. Il a participé à la réalisation en tant on peut dire apprenti, disons qu'il a fait il a réussi à faire son nom, sa place là-dessus. C'est vraiment un des premiers films qu'il réalise entièrement. Il a choisi le ton humoristique, alors que jusque-là il était plutôt sérieux. Bah là, ça lui a réussi quand même. À noter que le scénario est coécrit quand même par l'acteur Seth Rogen, donc il joue Britt, qui lui est un acteur comique, hein, puisqu'il a, j'ai regardé, il a fait des films comme Toujours Puceau, Funny People, Jude Apatow, voilà, il commence juste à être un peu connu là-bas dans le registre humoristique.
Voilà, donc c'est quand même quelqu'un, effectivement, comme tu disais, qui vient du vidéoclip. Alors bon, je ne sais pas pourquoi, tu as décidé de nous rappeler qu'il avait fait des clips pour Björk. J'aurais plutôt rappelé qu'il en avait fait pour Jean-Luc Lahaye ou l'affaire Louis Trio. Mais c'est juste parce qu'on ne regarde jamais la biographie par le même bout. Hein. C'est bizarre. Hein.
C'était même pas mis dans l'article que j'ai regardé.
Ah bah oui, mais il y a des gens comme ça qui veulent oublier. Non, mais il a fait beaucoup de gens à l'époque. Hein. Je vois qu'il a fait du Laurent Voulzy. Il avait fait le clip de Paradoxal System. Enfin voilà, il a fait beaucoup de clips dès les années 80. Mmh. C'est vrai que c'est ça qui l'a fait quand même connaître à l'époque, avant même effectivement qu'il devienne le réalisateur de pas mal de clips de Björk jusqu'à encore récemment. Donc c'est vrai que bon, on est sur quelqu'un qui vient du clip. Ça peut être logique effectivement par rapport à cette exploitation 3D qui est faite du film. Ça peut être effectivement quelque chose qui évidemment l'intéressait lui sur le plan technique, parce que bon, quand on fait du clip, on est quand même dans l'expérimentation visuelle. C'est vrai que c'est encore une fois le choix du Green Hornet qui est plus surprenant.
Oui, mais d'un autre côté, dans la mise en scène, ça se ressent, parce qu'il n'y a pas de longueur vraiment dans le film. Dans un clip, on doit faire quelque chose d'efficace dans une scène assez courte. Bah là, c'est pareil, toutes ces scènes en fait sont assez courtes et du coup sont très efficaces. Il n'y a pas de scène qui tire en longueur ou des plans qui servent à rien, quoi, en fait. C'est ça qui est bien.
D'accord. Donc, le film, il dure combien de temps, du coup?
1h45, quelque chose comme ça.
D'accord. Enfin,
moins de 2 heures.
Ouais. Ouais, il n'est pas forcément non plus un film très court, convenu, effectivement, du nombre de... Si les scènes sont courtes, c'est vrai que parfois, on a l'impression que le film peut paraître plus long qu'il n'est.
Non, mais du coup, c'est très bien fait, quoi.
Il y a ce qu'il faut, quoi. Ah ouais. Chaque scène...
Alors, au niveau des acteurs,
donc j'ai parlé donc de Seth Rogen, qui était l'acteur de Britt, qui était un acteur comique aux États-Unis. Après, on peut dire Jay Chou, donc il joue Kato, qui est un acteur très très connu sur le continent asiatique. Pour les fans de manga, il a joué dans le film Initial D, hein, qui est une série de manga qui parle de voitures au Japon, de courses de voitures, qui était une très bonne série de manga.
Dont vous nous aviez déjà parlé ici, d'ailleurs.
Voilà, avec Alain, qui a adoré cette série.
Ouais, je me rappelle.
Il a joué dans La Cité Interdite et Shaolin Basket, donc qui sont des séries, on peut dire, humoristiques. Enfin, Shaolin Basket était une série humoristique sur le basket et le kung-fu mélangé. Il a été apparemment très connu là-bas aussi en tant que chanteur. Il a sorti des disques qui sont très très bien vendus en Chine. Et par contre, Green Hornet est son premier film américain, donc il commence seulement à être connu, disons, par le grand public avec ce film-là.
D'accord, donc dans les autres personnages, on a parlé de ces deux-là, donc il y a quand même Cameron Diaz
qui joue le journaliste. Il y a, j'ai pas noté, celui qui joue Sudnowski, qui a été révélé quand même par Inglourious Basterds, j'ai vu.
Celui qui joue, tu m'as dit ?
Sudnowski, le parrain.
Alors, c'est écrit Sam Valls.
Voilà, qui a été révélé dans... Et qui était au départ pressenti pour... le méchant aurait dû être incarné par Nicolas Cage. Et en fait, ils ont choisi lui, puisque apparemment Nicolas Cage était occupé ailleurs. Peut-être sur Le Dernier des Templiers, qui est nul. C'est dommage, ouais, mais voilà.
On peut le chroniquer aussi. Alors, ça va être autre chose. Hein.
Voilà, mais vous pouvez pas tout aimer non plus. Enfin,
c'est vrai que l'acteur est très bon. Hein. Pour jouer le niais.
Ah là, vous êtes mauvais. Donc, on en revient au Folon Vert. Vous êtes censé être gentil aujourd'hui. Donc,
non, je parle de l'acteur là qui joue très bien.
Oui. Oh, c'est très radiophonique ce qu'on est en train de faire.
Ouais, l'acteur.
Je crois qu'on ne se comprend pas là.
Alors, c'était donc au niveau des acteurs, au niveau de la musique, tout
c'est
ça.
C'est James Newton Howard qui a fait les musiques de fond, qui a repris le thème de Green Hornet.
C'était un peu indispensable de le reprendre quand même.
Qu'il a réorganisé, donc qu'il a remixé, qu'il a réenregistré carrément.
Oui.
Et puis donc il y a pas mal de groupes de rock qui font de la musique derrière ou du hip hop, enfin ça dépend des scènes. Donc pas de grand moment non plus musical par contre dans ce film là. Hein. C'est très d'accord. Correct pour un film d'action, mais il n'y a pas de grands souvenirs.
Donc déjà, c'est un film qui vous a plu, que vous nous recommandez. Cindy aussi.
Ah bah oui, ouais. Complètement.
C'est étonnant quand t'as rien de méchant à dire.
On
a l'impression que tu dors ou comme d'autres fois, tu n'aurais rien préparé et que c'est pour ça que tu le laisses parler. Non.
Non.
Tu as vu le film?
Ah, bah oui, non, mais il est génial, quoi, faut aller le voir. C'est... Oh. Moi, franchement, je suis ressorti, j'étais plié encore.
Écoutez, moi, je réfléchissais à y aller, faut juste que je trouve un moment pour aller jusqu'à l'UGC pour le voir en 2D, mais à part ça.
Non, mais franchement, moi, je trouve que ça vaut le coup.
D'accord.
Tu ressors, t'es content, quoi. Tu rigoles, t'as le sourire, donc c'est bien.